Chapitre 3 Les pavillons, les perroquets et les deux dames. Et l'on se porta vers l'autre pavillon, fermé également par une grille. Minou suivit. Il connaissait tous les lieux. Dans la cour, le chien aboyait toujours, et l'on voyait à deux fenêtres, entre les lamelles des persiennes, de petites barres horizontales et lumineuses. La nuit était complète à présent et la lune commençait à donner sur la clairière. À la lueur qui jouait sur les toitures, on distinguait une herbe fine entre les pavés de la cour. « Ce n'est pas loin, » dit Gilles. « Mes enfants, demain vous viendrez là et vous apprendrez à lire et à écrire. » Les petites ne se donnaient pas de joie. Leur mère demeurait pétrifiée. Le père, lui, faisait le malin, et sur le chemin du retour, il dit « Oh, que serait-ce si je vous parlais du carrosse et des lézards verts ?»« Oh, tais-toi, » lui dit sa femme, « j'en ai assez, et attendons le grand jour. » Elle pensait encore en son fort intérieur que tout cela était songe et fantasmagorie, et que la forêt se retrouverait au matin dans l'état où on l'avait toujours vue. Cependant, elle dormit mal ou ne dormit point, et elle fut debout de bonne heure. Elle sortit aussitôt. Les deux pavillons étaient là, sous la saine lumière du jour, comme sous la lueur de la lune propice aux enchantements. Quand elle y envoyait ces deux fillettes, ah non ! Alors le père annonça qu'il les y conduirait lui-même, que d'abord c'est des choses convenues avec ces dames, et secondement, qui ne se souciait pas de revoir venir devant des petites le carrosse avec ses lézards. « J'ai eu moins de terreur, » dit là-dessus la mère Gilles, en entendant autrefois un père capucin décrire les cavernes de l'enfer, « j'ai eu moins de terreur qu'en voyant de mes yeux s'accomplir de petites choses quasi comiques, mais qui confondent l'entendement. » Le lendemain était un dimanche. On habitait ici, trop loin de tout pour songer à aller à la messe, aussi n'y assistait-on que le jour de Pâques. Dès le matin, quoiqu'il n'imaginât point de leçon qui fût possible un tel jour, le père Gilles estima que les convenances exigeaient des petites une visite à leur maîtresse. On vêtit les Bessonnes de leurs plus beaux atours et on les regarda s'éloigner, unis par la main, vers les grilles que l'on avait touchées la veille au soir et d'où était tombé Minou. Il fallait la présence de Minou là-bas, où le chat semblait comme chez lui, voire mieux, puisqu'il y restait, pour rassurer la mère, qui par ailleurs croyait envoyer ses filles au sacrifice. Les Bessonnes revinrent presque aussitôt, et elles dirent qu'à l'une comme à l'autre pavillon, elles avaient été accueillies par un domestique en livrée, et galonnés, qui leur avait appris très poliment que ces dames étaient pour l'heure à la ville, mais ne tarderaient pas à rentrer. Les petites avaient vu Minou dans la cour, en train de se pourlécher les babines auprès d'un bol de lait. « Mais comment ces dames sont-elles dès le matin à la ville et vont-elles rentrer tout à l'heure ?» se demanda la bûcheronne. Sur quoi son mari souriait dans sa barbe. Il ne quitta pas des yeux les deux grilles, étant de loisir ce jour-là. Vit-il quelque chose? Ne vit-il rien? Une heure après, toutefois, il commanda aux petites de retourner là-bas. Et cette fois-ci, les petites ne reparurent qu'après une heure écoulée. Elles étaient entières, elles étaient fraîches et de bonne humeur. Et de plus, elles étaient frisées. La mère leva les deux bras au ciel. Elle n'avait jamais jugé ses filles aussi jolies. Elle avait eu aussi, secrètement, grand émoi. Mais il s'agissait bien de cela à présent. Il s'agissait de faire taire les Bessonnes qui ne tarissaient pas, ou bien d'en faire au moins taire une afin qu'on pût entendre l'autre. L'une disait que d'abord elle avait vu un perroquet. L'autre en même temps disait qu'on lui avait fait prendre un bain. « Un bain oui, moi aussi !» s'écriait l'autre. « D'abord, moi aussi j'ai vu un perroquet. Tais-toi, faisait le père, laisse parler Gilette. Et Gilette disait, oui, j'ai vu un perroquet, un beau perroquet vert, qui faisait comme ça. Bonjour, bonjour, ah, quel beau temps, mais qu'il fait donc beau. Ah non, interrompait Gillonne, ce n'est pas ça qu'il disait. Il disait, voilà qui pleut, sacré pays de chiens. Tais-toi, faisait Gilles, laisse parler ta sœur. Et d'abord, avez-vous vu le même perroquet? Non, dit Gillette, puisque j'étais pas dans le même pavillon. Si, si, dit Gillonne, puisque mon perroquet était ouvert comme le sien. Bien, entendons-nous. Vous a-t-on séparé l'une de l'autre? Sur ce point, on finit par s'accorder, quoique les deux récits parallèles fussent encombrés de détails. Mais on en vint à un certain moment qui semblait hors de débat, et c'était celui de la séparation, attendu que l'une des sœurs était passée du premier pavillon dans le second, tandis que l'autre n'avait pas fait ce voyage. La difficulté qui s'expliqua par la suite venait de ce qu'on n'avait point pris l'enfant par la main pour la faire sortir du premier pavillon et la conduire au second, mais qu'on l'avait prié de s'engager en des escaliers et des couloirs. Il en résultait que les pavillons communiquaient entre eux par quelques galeries souterraines. Une fois séparées par les soins d'une femme de chambre, elles avaient été l'une et l'autre enfermées dans une belle pièce où un perroquet et sur sa tige de bois répandait le chêne-vie à plus d'un pas à la ronde. Et le perroquet de Gilette disait, ou à peu près, entre autres choses, « Qui fait donc beau ?» tandis que celui de Gillonne disait, « Quel sacré temps !» Ensuite, on les avait priés de prendre un bain. Puis, par les soins de la femme de chambre, toutes deux étaient vues, peignées, frisées. « Et après ?» leur demandait-on. Oh, après, on les avait introduites dans une pièce encore plus belle où se tenait une dame. Une dame en cheveux jaunes, dit Gillette. Non, pas en cheveux gris, rectifia Gillonne. Ben, puisque c'était pas la même, dit le père. Ben, la dame a dit qu'elle arrivait de la messe, qu'elle avait vu le duc, la duchesse et quantité de gens, que l'église était remplie de beau monde et que monsieur le curé avait prononcé un sermon digne de Bossuet. Elle a dit, rapporta Gillonne, qu'elle était arrivée à l'office un peu en retard, parce que sa sœur et elle étaient paresseuses, et le cocher aussi. Elle a dit qu'elle pensait que les gens de la ville étaient eux-mêmes peu du matin, car l'affluence était mince et composée de fretins, enfin que le curé, d'ailleurs bonhomme, prêchait comme une savate.
« Oh, ça, c'est exact, » dit Gilles. « Il cherche ses mots comme quelqu'un qui, le matin, n'a pas encore tué le ver. »«
Je vois, » opina la mère, « que ces deux dames ne regardent pas les choses du même œil. »«
Ben, il y en a une qui voit clair, » dit Gilles.
« Peut-être qu'il vaut mieux voir beau, » dit la mère Gilles. « Mais par quel moyen ces dames ont-elles pu se rendre à la messe et être de retour ?»
Le bûcheron ricana. « Oh, toi, tu veux toujours avoir l'air de savoir les secrets. »« Moi, » dit Gilles, « on m'a assez tourné en dérision. Il y a de cela 6 ans, lorsque j'ai vu la fée Malice. Je verrai le bon Dieu entouré de ses saints que j'en soufflerai pas beau. »
En attendant, les petites savaient déjà la moitié de leur alphabet et elles traçaient des lettres majuscules et minuscules avec un morceau de charbon sur les murailles et sur tous les objets. Gillette affirmait que c'était facile et qu'elle saurait écrire au bout de 8 jours. Gillette trouvait que c'était pas si aisé et qu'il faudrait des mois avant qu'elle fût en état d'adresser une lettre à sa marraine. Entre elles, elle s'entretenait surtout des perroquets. Les pavillons, les deux dames, les perroquets et la leçon était sujet de colloques animés sous le toit de Gilles, quand, l'après-midi, les amis bûcherons et bûcheronnes se présentèrent pour manger les rôtis et le pain perdu. On parla des dames, des perroquets, des pavillons et de la leçon. Une idée neuve ne se loge pas plus sûrement dans le cerveau des hommes qu'une balle tirée à 500 pas. Il fallut un certain temps pour que l'un des bûcherons en fût atteint.
Mais de quoi est-il question ici? Êtes-vous point devenu fou, compère et commère?
De quoi compère et commère parurent beaucoup plus étonnés qu'ils ne l'avaient été en découvrant eux-mêmes Pavillon et tout ce qui s'ensuit.
Mieux vous parler de ce qu'on voit que de traiter de Billevesée, dit Gilles.
Les Bessonnes allaient de l'un à l'autre racontant leur matinée et parlant de leur perroquet. Il n'y eut pas jusqu'à Minou qui, revenu à domicile pour les friandises du dimanche, ne fut pris à témoin. Il passait lui aussi ses nuits là-bas. Il était tombé en boule hier au soir du haut de la grille du pavillon de gauche.
« Du pavillon de gauche !» s'écria l'un des bûcherons en poussant un juron à faire damner toute la province. Puis il se mit à rire de telle manière que tous les bûcherons autour de lui, pris de gaieté, s'esclaffèrent et dansèrent une ronde autour du père de la mère Gilles. Et leurs sabots rythmaient le pas sur le sol de terre desséchée. La marmaille les imitait dans les coins. Et Minou, grimpé sur la bûche, la queue droite, le dos arrondi, les regardait de ses yeux de braise. Sans protester, sans mot dire, le père Gilles, en reconduisant tout son monde, l'inclina du côté des deux pavillons, et quand on fut en vue de ceux-ci, au point d'en pouvoir compter les vitres, il dit simplement « Vous voyez, il n'y a pas loin pour les petites à venir prendre leurs leçons. » Aucun des hommes, aucune des femmes qui se trouvaient là ne voulut ni paraître étonné, ni surtout avoir nié une vérité évidente. Ils firent « Oh, en effet, en effet !» Et leur petite troupe s'achemina en se divisant pour laisser au milieu l'espace occupé par les deux pavillons que chacun voyait. Mais ces paysans ne les regardaient pas trop, soit que ce voisinage leur donna la chair de poule, soit qu'ils fussent résolus de dissimuler leur dépit ou leur stupeur. Le dimanche suivant, pas une allusion à l'étrangeté du fait. Celui-ci était passé au nombre des choses admises de tout temps. Le père et la mère Gilles en éprouvèrent même un dépit assez vif. Ils avaient fait du merveilleux leurs choses et ils regrettaient qu'un cas si extraordinaire demeura, du moins en apparence, comme s'il était inexistant. Une idée de femme ordonnée vint à la mère Gilles et elle la confia aussitôt à son mari. « Rien n'est pour rien, dit-elle. Nos filles apprennent à lire et à écrire. Ben, c'est bien toi qui l'as voulu. Et ces dames des pavillons sont bien savantes, c'est entendu. Mais reste à savoir ce que cette fantaisie va nous coûter. Quand on a affaire à un précepteur, je l'ai entendu dire, c'est tout comme à un homme de peine, on fait avec lui le marché d'avance. Bon, tu parles pas mal pour une fois, dit le père. On pourrait leur porter quelques livres de beurre, ou pas, du fromage blanc et des fraises des bois. Ça ferait en même temps une visite de politesse.
Oui, on verrait les perroquets, dit la mère, et aussi comment c'est fait là-dedans. Un jour, à une heure autre que celle de la leçon, le père et la mère Gilles revêtirent leurs habits de fête, suspendirent à leurs bras les paniers et s'acheminèrent vers les pavillons. Ils furent reçus à la grille du pavillon de gauche qu'ils avaient choisi, à tout hasard, par un domestique en livrée, devant qui ils déclinèrent leurs noms et qualités, et à qui ils confièrent leur intention de voir Madame... Madame qui ? Ah, à ce moment, ils s'aperçurent qu'ils ignoraient son nom. On les fit entrer, néanmoins, dans le salon, au perroquet, mais plutôt à la cuisine. Ils n'en furent pas froissés, car c'étaient de pauvres et bien honnêtes gens, mais humiliés cependant, en pensant aux quelques livres de beurre qu'ils apportaient, alors que le beurre, il coulait à flot sur les flancs dorés des poulards de la broche, que faisait tourner, en face d'un grand feu, un petit singe vêtu de blanc et coiffé d'une calotte de marmiton.
Bon, c'est bien dommage, dit la mère, que les enfants ne soient pas là, car elles auraient ri tout leur content.
Ce petit singe, assis sur son séant, tournait la broche avec un imperturbable sérieux. Mais le feu vif lui brûlait le museau, et il se le garantissait à l'aide de sa main oisive, qui tenait, comme celle d'une vieille marquise à mitaine, un écran de carton. Il était aussi tenté de goûter au rôti, et n'était qu'un chef passé et repassait fréquemment pour lui administrer une chiquenaude. Le drôle eut la paix en quelques coups de langue le jus onctueux des superbes volailles. C'est en ce milieu que le père et la mère Gilles revirent Milou. Il était là, posté sur une haute étagère, entre une bassinoire de cuivre et un fort gros cuisseau de porc fumé, et il vous regardait de ses yeux jaunes, tranquille et pleinement satisfait, comme un serviteur sympathique qui atteint avant ses maîtres les sereines régions du bienheureux séjour. L'odeur du lieu, il faut le dire, était délectable pour un estomac dispos. Nos bonnes gens se trouvèrent si embarrassés avec leurs paniers qu'ils les laissèrent là quand on les vint avertir que madame leur faisait l'honneur de les recevoir. Ils repassèrent par la cour d'entrée où ils eurent le loisir de constater qu'une herbe fine poussait çà et là entre les pavés, comme dans les maisons qui ne datent pas d'hier, et tandis que Gilles s'attardait à remarquer qu'il y avait même du pissenlit et de la mâche, sa femme ne retint pas un cri parce que, hors des portes closes de l'écurie, sortaient, rasant le sol, de grands serpentins verdâtres dont on ne voyait pas la tête, sans doute trop grosses pour passer sous les battants, mais dont la queue, démesurément longue et souple, s'agitait de terrifiantes manières. Gilles regarda la chose et se prit simplement à rire. Elle jugea son mari ou très brave ou plutôt stupide. On voyait d'ailleurs, dans une grande remise entr'ouverte, plusieurs hommes en bras de chemise épongeant un grand carrosse vert. La mère Gilles se souvint que son mari s'était flatté d'avoir vu un carrosse dans la forêt. Elle fut plongée dans la perplexité. À une fenêtre, une soubrette, les bras et la gorge nus, faisait tranquillement sa toilette. « Ne regarde pas là !» dit la mère Gilles. Mais on les introduisait l'un et l'autre dans une pièce spacieuse et ornée. La mère Gilles fut aussitôt éblouie. Elle confia à son mari. « Oh, Yamaldon, c'est moi qui te le dis. Les leçons ici seront trop chères pour des pauvres bougres comme nous. » Il pénétrait cette fois bel et bien dans le salon où perchait le perroquet. Cet oiseau les accueillit par un « bonjour, bonjour » plein d'aménité, et il ajouta « quel temps charmant, quelle température délicieuse !» Ce qui fit sourire nos gens parce que s'il ne pleuvait pas aujourd'hui, c'était tout juste. La chaleur était accablante et un orage se préparait à l'horizon. Tout à coup, le perroquet se mit à chanter, mais à chanter d'une voix atténuée et lointaine, où les articulations manquaient, mais qui était cependant suave, caressante, accompagnée parfois de sons filés, tels quand un archet sur une corde sonore. C'était curieux, étrange et drôlatique, entre les branches cordues du bec de cet oiseau imitateur, à tête de vieil hébreu. Sans s'interrompre, mais sur un ton prosaïque, il dit successivement « Où est donc Minou ?»« J'ai mangé du lard aux choux. » Et « Mon enfant, vous chantez comme un ange. » Le bûcheron et sa femme riaient à qui mieux et ne trouvaient pas le temps long. Ce fut presque à regret qu'ils suivirent le valet qui vint les prendre pour les introduire cette fois en une pièce mieux ornée encore, où le sol brillait comme un miroir et où ils virent une dame à cheveux jaunes reconduisant un jeune garçon très bien mis à qui elle disait « Mon enfant, vous chantez comme un ange » et en lequel tous deux, sans s'y pouvoir méprendre, reconnurent le jeune Loire, propre fils de monsieur le conseiller Périnel. Et ils étaient là à se demander par quel moyen le fils du conseiller Périnel, habitant à 10 lieues d'ici, pouvait être transporté avant midi en pleine forêt pour y chanter comme un ange avec une dame à cheveux jaunes, lorsque celle-ci vint vers eux, marchant avec aisance sur le parquet lumineux, et leur dit « Vos filles sont des amours. Celle qui m'est confiée, Gilette, va lire un livre ouvert à la fin de la semaine. Vous êtes les plus heureux parents du monde, Dieu. Quel beau temps, la température est exquise. Cette enfant a la plus belle voix du royaume. » Et comme elle reprenait haleine, le bûcheron dit « Ben, nous connaissons bien le fils de monsieur le conseiller Périnel. »« Ah, vous le connaissez, » dit la dame. « Il vient ici tous les 2 jours prendre sa leçon avant vos filles. Son père est l'homme le plus vertueux de la terre. » Sur ce, elle voulut faire asseoir le bûcheron et la bûcheronne, qui n'y consentirent point. Ils avaient hâte, étant troublés, d'en arriver au but de leur visite. « Madame, » fit Gilles, oh, « je dis madame tout simplement parce que vous êtes pour nous, madame, madame je ne sais qui, » elle s'esclaffa. « Madame je ne sais qui, c'est cela, c'est charmant, je serai pour vous, madame je ne sais qui. Bon, »« Madame je ne sais qui, » reprit-il, « nous venions vous trouver, la bourgeoise et moi, pour vous demander... » Ah, non, mais c'est pas si facile à dire. Oh, et parle donc, toi, dit-il en se tournant vers sa femme. Mon Dieu, madame, dit la mère Gilles, nous sommes confus de vos bontés, mais on voudrait bien savoir, pensez, madame, je ne sais qui, que l'on est du pauvre monde, enfin, si ça nous coûtera cher, les leçons aux petites. Madame, je ne sais qui, se mit à rire de nouveau, et de plus belle. Laissez-la, cela, mes bonnes gens, et écoutez-moi bien. Il ne sera jamais question d'argent entre nous. » Le bûcheron et sa femme rougirent de plaisir. Mais tout aussitôt, dans l'esprit de la femme, germa le soupçon que, si l'une de ces dames donnait ses leçons gratuitement, l'autre le pourrait bien faire payer le double d'un prix honnête. Elle poussa le coude de son mari, qui la devina aussitôt, et dit « Pardon, madame, je ne sais qui, nous vous comblez, mais nous voudrions bien aussi présenter nos devoirs à madame... qui est-elle ?»« Madame, qui est-elle ? Ben, voilà le nom qui convient à ma sœur. » « Que vous feriez un bon curé de campagne, vous, mon brave homme. Vous vous entendez comme nul autre à baptiser les gens. » « Eh bien, on va vous conduire près de madame A, qui est-elle ?» Et elle se reprit à rire, puis à chanter comme une gamine. « Je comprends, » opina la mère Gilles, « que les enfants ne s'ennuient pas dans cette maison. »« Voilà du beau et du beau monde, » dit le bûcheron. Ils ne s'aperçurent point de quelle façon ils arrivèrent, tout en devisant, dans une salle à peu près pareille à celle du perroquet. Et en effet, l'oiseau aux couleurs crues était là, sur son perchoir, avec son chêne-vie qui souillait le sol tout alentour. Mais celui-là disait « Encore des fautes, vaurien, vous êtes un âne, savez-vous, le sale pays, quel sacré temps !»« Oh, c'est pas le même, » dit la mère, « celui-ci est beaucoup moins bien élevé. » « Mais meilleur juge, » dit le bûcheron, « car en réalité, le tonnerre éclate et il pleut à torrents. »
Chapitre 4. Même dans le merveilleux, le temps passe. Ils furent introduits près d'une dame qui ne ressemblait pas à l'autre, tout en ayant avec elle quelque air de famille. Et celle-ci était occupée à donner une leçon au même garçon en lequel ils avaient reconnu le fils de M. Périnel. Tout en parlant aux paysans, elle se garda de s'interrompre, et le petit ânonnait sur les pages d'un grand livre.
« Vous ne serez jamais rien, disait la dame, je ne ferai pas de compliment de vous à monsieur votre père. »
Et elle reprit, se parlant à elle-même.
« Ben, il n'y a rien de parfait, rien ne marche ici-bas de manière à contenter un esprit clairvoyant. Et qu'est-ce que vous dites de ce temps, par exemple ?»«
Oh, je vais être obligé, Dieu me pardonne, de faire allumer les chandelles en plein midi. »
« Nous étions venus, madame, dit le bûcheron. « Ah, vos petites, oh, je sais, oui. Oh, elles sont gentilles. Elles apprendront peut-être convenablement, mais il faut de longs et patients efforts. Ce n'est pas si facile. »«
Oh, celle-ci parle avec beaucoup de bon sens, dit le bûcheron à sa femme.
« Je dis pas non, fit la mère, mais l'autre a plus de grâce. »
Gilles éprouvait encore la hâte d'arriver à ses fins. Il dit...
« Nous étions venus, madame, pour la question du prix des leçons. »
La dame sourit tout de même que sa sœur, mais elle dit
« Vous avez raison, oui, vous êtes un honnête homme. Tout se paye, vous vous en doutez bien. Vos filles apprennent à lire et à écrire. C'est votre désir, n'est-il pas vrai? Eh bien, votre vœu étant accompli, le prix en sera seulement... » La conséquence naturelle. Rappelez-vous ces mots, c'est le seul acompte que je vous demande. »
Le couple s'inclina avec déférence et confusion. Comme ces bonnes gens se retiraient en faisant attention à ne pas s'étaler sur le parquet, le père Gilles aperçut parmi d'autres un grand portrait qui le sidéra. Il dit à sa femme,
« Ça te rappelle rien, toi, ça ?»«
Quoi ?»«
Ben, ce portrait. »
La mère Gilles pâlit, mais ne voulut absolument pas répondre. Le bûcheron demeura troublé, même sous la pluie qui le trempa, ainsi que sa femme jusqu'à l'os.
« Tu es donc pas content ?» lui demandait sa femme. « Il ne sera jamais question d'argent entre nous. » « Comme elle a dit ça, madame je ne sais qui. »«
Oui, mais le prix en sera seulement la conséquence naturelle, » a dit madame à qui est-elle. « Que veut dire ceci? C'est peut-être une attrape. » Puis il se reprit à songer au portrait qu'il avait vu. Une demi-douzaine d'années après ces événements, il ne s'était pas produit grand changement dans le coin de la forêt, si ce n'est que les bûcherons étaient un peu moins ingambes et les Bessonnes, deux grandes filles, fort avancées pour leur âge, de visage agréable, de taille bien prise, et que l'on commençait partout à traiter de demoiselles. Ainsi la vie s'écoulait dans le merveilleux, aussi tranquillement qu'elle l'eût pu faire au milieu des circonstances les plus ordinaires. Rappelons-nous d'abord le petit excédent régulier de recettes qui augmentait progressivement la fortune du bûcheron. Ensuite, les deux pavillons qui étaient toujours là, faisant partie des images familières, non seulement des bûcherons mais de leurs amis, comme si ces bâtiments eussent existé du temps de leur père, aïeux et bisaïeux. Enfin, les Bessonnes, âgées d'une douzaine d'années, lisaient, cela va sans dire, et écrivaient comme des clercs. En outre, elles savaient jouer de divers instruments de musique et chantaient si agréablement qu'on les priait dans plusieurs maisons de la ville, et notamment chez M. le conseiller Périnel, le seul esprit libéral de l'endroit, qui faisait peu de distinction entre les classes et aimait que les savants vécussent autour de lui. Quand Gillette et Gillonne allaient à se rendre à la ville, elle commençait par aller au pavillon, puis on n'entendait plus parler d'elle jusqu'à leur retour. Et lorsqu'elle revenait de leurs matinées et soirées, c'était à l'heure dite et sans trace de fatigue. Et personne ne s'étonnait qu'elles eussent fait 20 lieues comme autant de pas. Leur toilette, mais elle leur tombait du ciel. Qui de vous se demande si l'on pourrait être autrement ? La maman Gilles n'eut pas toléré le cas contraire, sans prendre tous les gens du bois à témoin que le gouvernement avait juré la perte d'une honnête famille. Oh, n'allez pas vous imaginer à présent que le père et la mère Gilles fussent contents de leur sort. Ils ne cessaient de récriminer. La maman prétendait qu'il était honteux de vivre dans un taudis quand on avait des filles si instruites et si richement habillées. Elle se plaignait d'être tenue de faire le long trajet de la ville à pied, alors qu'il existait d'autres moyens dont on ne lui parlait pas, mais dont elle soupçonnait l'existence. Enfin, elle eût aimé que ses deux filles fussent pareilles en tout point, vêtues de même et éduquées d'une seule manière. Or, Gillette recevait du ciel des robes couleur d'aurore, et Gillonne couleur de crépuscule. Gillette blondissait dans la mesure où Gillonne devenait brune davantage. Gillette avait la voix aiguë et Gillonne fort grave. Gillette lisait des contes à dormir debout et Gillonne des histoires véridiques. Gillette trouvait que tout était beau, bon et bien fait dans la création, tandis que Gillonne possédait un sens critique souvent amer, mais aussi très amusant. Elle disait à chacun son fait, et ne s'en laissait imposer par qui ni par quoi que ce fût. Le père Gilles trouvait que Gillonne était bien plus intelligente que sa sœur. La mère Gilles estimait Gillette plus que Gillonne. « D'abord, elle sera plus heureuse, dit-elle, puisqu'elle juge tout beau et bien. » « Taratata, faisait le père, elle aura des déconvenues, parce qu'elle ne sait pas voir le mal où il est, tandis que sa sœur s'entendra pour le dépister. » La discussion était sans fin. Un beau dimanche, la troupe amicale des bûcherons et bûcheronnes arriva avec sa marmaille. Tous ces gens étaient blêmes, les jambes vacillantes, les yeux exorbités, beaucoup d'entre eux même ayant restitué leur déjeuner comme des personnes souffrant du mal de mer. Ils eussent vu la moitié de la planète se détacher et tomber dans la nuit vide, qu'ils n'eussent point manifesté plus de terreur. Mais qu'avaient-ils donc vu? Ils avaient vu, sur l'herbe, étendue à la porte de l'un des pavillons, un lézard vert de la taille d'un cheval de trait. Et Gilles se tenait les côtes. « Il y en a deux !» disait-il. « Et vous dites cela ?» s'écrièrent les gens du bois, « comme vous parleriez d'une portée de lapin. »« Comment ?» disait Gilles. « Je vous ai mené un jour voir des pavillons poussés dans la nuit, comme des morilles après la pluie, et cependant plus anciens l'un et l'autre que votre arrière-grand-père. Vous n'avez pas bronché ?» Et vous voilà aujourd'hui les membres coupés et le ventre débordant, comme un marais, parce que vous avez vu un lézard. Mais quatre maisons comme la tienne tiendraient dans sa panse, murmurait un homme tremblant. La mère Gilles opina. Mais j'aime pas ces bêtes-là, non plus que tout ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui arrive? Lui demanda-t-on. Bah, oh, je m'entends. Je m'entends. Ce qui arrivait pour le moment, en tout cas, c'est que les Besson n'étaient point de retour. Et leur retard même était grand et tout à fait inusité. À part lui, le père Gilles pensait « Bon, ils sont point revenus de la messe, et le lézard se prélasse sur l'herbe. Que ceci ?» Il se doutait que, dans les communs des pavillons, il y avait mieux encore que les lézards, pour vous conduire à bonne distance. Mais aussi, raison de plus, pour vous ramener sans retard. On épilogua sur l'absence de Gillette et de Gillonne. Quelqu'un dit, « Oh, je ne serai pas tranquille. »« Pourquoi ?» dit le père. « À cause de ce lézard du diable. »« Moi, » dit un autre, « je ferai ce soir un détour de 5 lieues, plutôt que de repasser par l'endroit où je l'ai vu. » Les Besson n'arrivaient point. Les conversations n'étaient pas de nature à tranquilliser les parents. Bon, « j'aime mieux vivre loin de toutes ces singularités-là, » dit une femme. « Mes petites sœurs, d'y lire, d'y écrire, on s'en est bien passé jusqu'ici. »
Toutes les fois qu'il se fait une chose de bien, dit un autre, on peut être sûr qu'elle a eu mal son pendant exact. Vous en subirez la conséquence.
La conséquence, fit le père Gilles, tiré de sa songerie.
Mais la conséquence naturelle, oui, mon compère. Il n'y a pas à dire dans ce bas monde. C'est comme au marché, rien pour rien, tout se paye.
Ce fut au père Gilles de trembler, car il se souvenait des paroles prononcées dans un des pavillons par la maîtresse de Gilonne.
Il ne cessait d'aller de sa chaumière à l'endroit d'où l'on apercevait les pavillons, et il mettait la main en auvent sur son front, et il amenuisait ses yeux, qui étaient bons et voyaient loin. Les Bessonnes ne paraissaient pas. On s'attabla pour les rôtis et le pain perdu, comme les dimanches ordinaires. Mais le cœur n'était pas à la collation. Et quand on attend quelqu'un, il est difficile de parler d'un sujet autre que celui de son absence.
Ben, supposez, hasardait quelqu'un, que mademoiselle vos filles soit reconduite et seulement jusqu'à la lisière de la forêt par la voiture du duc, c'est-à-dire parce qu'il peut se faire de mieux. Il faut encore un bout de temps pour venir jusqu'ici, même sur des jambes de jeunesse. Pour ce qui est de faire pénétrer un carrosse sous bois à d'autres.
Gilles regardait avec dédain celui qui venait de parler.
On peut bien aussi détacher un cheval et galoper un califourchon, dit une vieille.
Mais comment donc, après tout? Qu'est-ce qu'elles s'y prennent, les autres dimanches?
Les autres dimanches, dit la mère Gilles, elles sont à l'heure, voilà ce que je sais.
Moi, dit une femme, ne me suis jamais séparée de mes filles.
Ben, il faudra bien que tu le fasses, et la belle, le jour où chacune trouvé un galant.
Ben, eh bien alors, le diable m'emporte si elles viennent te raconter ce qui leur sera arrivé.
Les enfants, mais c'est fait pour inquiéter les parents. Ils sont jamais pareils à nous. Ils ont leur manière de voir, on ne les tient pas.
Oh, et qui veut les élever trop bien les élève mal. C'est comme s'ils dépassaient cher pour faire d'eux des étrangers.
Durant que Gilles était hors de la chaumière à explorer l'horizon, l'on se permettait ces aphorismes de la vieille sagesse des familles. Et sa femme, le nez dans la poêle à frire, entendait peu les propos des commères. Tout à coup, elle poussa un cri. Sous sa cuillère et sous les jets en pétarade de la friture, elle venait de discerner un objet qui n'était ni œuf ni tartine et qu'elle se hâta d'amener au jour. Avec une pince, on le retira. Cela avait la forme d'un billet, et le cachet y était, qui avait failli fondre.
Il y a un farceur sur le toit. Peut-être bien aussi que les petites s'abusent là-haut à nous jouer un tour.
On appela le père à demi-mort d'inquiétude.
Une aide, compère Gilles. Parions que tu as loué, vieil avare, ton premier étage à une sorcière.
Une aide? Oh, ma foi, oui. Le cachet portait un écusson inconnu, soutenu par des chimères.
Une lettre, dit le père Gilles. Ah, oh, si elles étaient là!
Mais qui sait-il parmi nous qui est seulement fichu de la lire?
Ben, en effet, personne n'en était capable. Il rompit le cachet avec rage et dit qu'il s'en allait au pavillon.
Ben, le dernier des barbitons, grommelait-il, le singe tournebroche. Les perroquets, ils sont plus savants que nous.
On le trouva plein de courage, car aucun homme n'eût voulu se risquer du côté des pavillons. Cependant, en troupe, armée de fourches, de cogniers, de manches à balais, de l'ardoire, ils le suivirent, les femmes en arrière, faisant force signe de croix et priant afin qu'il n'arrivât point malheur. Au pavillon, les grilles closes. On appelle, point de réponse.
pas le moindre signe de vie, ni dans une cour, ni dans l'autre. Toutes les persiennes rabattues, pas le relent d'un fumette aux issues des cuisines, pas le plus frêle écho d'une voix de perroquet. On eût souhaité voir, sous la porte des écuries, onduler la queue d'un dragon, rien. Demi-nous, nous ne parlons pas. C'était dimanche, jour de rôti, il était au logis familial. Le pauvre Gilles tenait sa lettre à la main. Oh, ce n'était pas un long écrit, 3 lignes à peine. Mais ce papier, par miracle tombé de la cheminée, Gilles avait l'assurance qu'il lui apportait des nouvelles de ses filles, de qui nulle nouveauté ne l'étonnait. Il enrageait de ne pouvoir déchiffrer ces 3 lignes. Aussi était-ce grande pitié pour tous de le voir pleurer comme un enfant. « Et vous dites, s'écriait-il, qu'il ne faut pas apprendre à lire, mais si je savais lire, j'aurais à 7 heures des nouvelles de mes filles. » « Mais si tes filles n'avaient pas appris à lire, elles seraient près de toi ?» Il annonça qu'il allait aller à la ville se faire expliquer le contenu de la lettre. C'était insensé à 7 heures. Il passerait la nuit dans les chemins. Mais il ne voulut entendre aucun conseil, et il partit, tel qu'il était, sans vouloir se retourner. À l'écart de la mère Gilles qui versait des larmes, les femmes échangeaient leurs opinions. L'une était d'avis qu'à n'en pas douter, un sort avait été jeté au malheureux bûcheron. Une autre, que le père des Besson était un être avide, ayant fait le serment de s'élever au-dessus de sa condition, et qu'il était puni par où il avait péché. Mais presque toutes pensaient que le lézard géant avait dévoré les fillettes, et que c'était pendant sa digestion pénible qu'on avait vu ce matin le monstre affalé sur le tapis herbeux de la clairière. « Il sera bien dangereux quand nous repasserons, » dit un joyeux de la compagnie. « Ces bêtes-là ne font pas de repas d'un jour. » « Dis plutôt qu'elles dédaigneront ta vieille carne après s'être régalée de fines cailles à leur déjeuner. » Ils n'en firent pas moins tous et toutes un grand détour le soir en regardant les chaumières.